les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Au sommaire de cette édition, un événement avec une star mondiale de la musique orientale, emblème de la fusion des cultures. Natacha Atlas est sur notre plateau pour un titre acoustique dans notre studio à l'occasion de la sortie d'un nouvel album très jazz. Nous partirons en voyage à la rencontre des peuples de l'Arctique avec Eric Orsena de l'Académie française et Francis Latreille. Ils publient ensemble un beau livre de textes et de photos. Bonjour Eric Orsena.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ces peuples de la toundra, du grand nord canadien ou encore du Groenland, ce sont les résistants du réchauffement climatique aujourd'hui, on peut dire ça.
Et les résistants aussi de la mobilité, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'entièreté de ces régions leur appartient. Ils ne sont pas juste assignés à résidence.
Et ils incarnent aussi une part de l'origine du monde. Nous verrons cela ensemble tout à l'heure avec Francis Latreille. Bonjour Francis.
Bonjour.
Soyez le bienvenu également. Marie Desplechin est aussi en plateau avec nous. Elle alerte les enfants dans un ouvrage très pertinent qui incite à changer d'attitude pour préserver justement la planète. Ce sera dans un instant pour notre séquence La Librairie Verte. Et puis nous recevrons un auteur suisse prix Interallié 2010 pour L'Amour Nègre, Jean-Michel Olivier. Un parcours étonnant, il fait l'éloge de ces fantômes littéraires de grandes personnalités qui ont marqué sa vie personnelle, mais aussi le monde de la culture.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous, comme chaque semaine. Mathieu Colombe représente la France. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Aix-en-Provence, dans la librairie Goulard.
Toujours.
Tout va bien pour vous.
Évidemment.
Je sais. Pour le Canada, c'est Josiane Letourneau de la librairie du Square à Montréal qui est avec nous. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Nathalie Clérin.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Belgique dans la jolie librairie de la Mazarine à la Hulpe. Et si on faisait un petit coup de gueule pour commencer, Nathalie?
Oui Emmanuel, comme rarement, je fais mon vilain petit canard aujourd'hui. Oui, un petit coup de gueule en pensant à une auteure de Bruxelles, Caroline Lamarche, pour ne pas la citer,
ah oui,
qui s'est vue gratifiée d'un haut prix littéraire cette année, et ceci à très juste titre, mais que la maison d'édition ne soutient pas assez à mon goût dans la diffusion de son prix. Et quant à nous, libraires, on a pleuré en vain chez le diffuseur pour que nous parviennent des affiches d'éditeurs pour notre séance de dédicace. Alors je dis s'il vous plaît, acteurs de la francophonie avec un grand F, merci d'avance de vous réjouir des créations littéraires de partout,
ben oui,
et de penser aux auteurs et aux libraires de Bruxelles, de Belgique et de toute la francophonie, Emmanuel.
Vous avez raison, il faut défendre la francophonie. Bien joué, merci Nathalie. En Suisse, on retrouve Dominique Bressoud de la librairie Une Petite Prose à Boudry. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Un coup de gueule ou un coup de cœur cette semaine pour vous?
Eh ben un coup de gueule. Allez,
allons-y.
Sur le prix du livre en Suisse, parce que vous avez remarqué, la Belgique adopte le prix unique du livre pour 2020, mais bon sang, pourquoi il n'y a pas l'ombre d'une initiative ni même d'un débat en Suisse à ce sujet? Moi j'entends d'ici certains auditeurs helvètes qui vont enfourcher le cheval de bataille de la libre concurrence pour défendre les remises accordées par les supermarchés, mais en fait, pour paraphraser le décret émis par la Belgique, l'idée du prix unique du livre, c'est quand même d'être à l'avantage des lecteurs en préservant la pluralité des canaux de vente pour une offre de livres diversifiée,
oui, oui, oui,
et qualitative.
C'est un
bref,
vrai souci.
C'est, ouais, en fait, pour qu'on trouve encore des librairies indépendantes et puis aussi des libraires qui aiment leur métier et qui peuvent l'exercer.
Eh oui, les libraires, voilà, indépendants sont en danger en Suisse depuis de nombreuses années,
voilà,
avec cette histoire
depuis
du prix du livre. On a toujours entendu ça depuis que l'émission existe. Bon, vous avez tout notre soutien aujourd'hui, Dominique, pour cela, mais aussi pour vos coups de gueule, car il faut le dire, on l'a déjà dit, mais il y a parfois des menaces d'éditeurs ou des intimidations lorsque vous faites un coup de gueule dans cette émission. Et voilà, donc c'est pas normal. La liberté et le débat culturel doivent toujours dépasser ça. Et il faut continuer la liberté, n'est-ce pas?
Merci beaucoup, Emmanuel.
Bon, merci à tous les quatre d'être avec nous. Vous interviendrez bien sûr tout au long de l'émission. La librairie francophone se met au vert régulièrement avec cette séquence que nous avons appelée la librairie verte. Reportages, témoignages, invités, comment le monde de l'édition se mobilise à son niveau pour l'écologie? C'est le principe et la question que nous poserons toute cette saison. Bonjour Marie Desplechin.
Bonjour.
Alors vous publiez un livre très vert à l'attention des enfants, Ne change jamais, manifeste à l'usage des citoyens en herbe, est paru à l'école des loisirs. Et vous interpellez les enfants, vous dites en introduction que c'est, je cite, une déclaration de confiance.
Oui, parce que ce sont des interlocuteurs formidables quand on parle d'écologie et d'avenir, parce que c'est eux qui vont boire la tasse, en fait, dans les années qui viennent. Et ils en sont conscients, c'est-à-dire dès qu'on en parle avec eux, ils sont ni sourds ni aveugles. Et ce qu'il y a de formidable chez eux, c'est d'abord ils sont plus intelligents que les adultes, ils sont très rapides, et les enfants, ils sont créatifs et proactifs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite des solutions ou envie de faire des choses. Et ce livre, plutôt que de leur donner des injonctions en tant qu'adultes, qui avons failli, eh bien c'est plutôt de leur dire, conserve tes qualités d'enfant, car elles te seront utiles dans le monde qui vient.
Et vous insistez sur l'entraide, qui fait partie de la nature humaine. Vous racontez que dès le début de son existence, un être humain ne peut pas faire autrement que de ressentir de la peine, par exemple, pour un être qui souffre, et vouloir le secourir sans aucun espoir de récompense. Les enfants font ça d'ailleurs.
Ah bah oui, je pense qu'il y a encore des articles très récemment, et c'est dans le livre de Rifkin que c'est une donnée, l'empathie au départ, et c'est changé après par l'éducation. Mais la première réaction humaine, c'est n'est pas la violence, la haine, la méfiance, elle est au contraire l'empathie et le partage de l'émotion. C'est pas spécialement original ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus depuis une dizaine d'années. Mais là, c'était en parler avec des enfants, parce que ça les concerne au premier chef.
Alors c'est vrai que ça les concerne, et vous parlez des choses qui les concernent directement. Les vêtements, par exemple, c'est le premier acte solidaire qui peut influer sur la protection de la planète. Le principal coupable, pour vous, c'est la société de consommation, en fait. Chaque année, dans le monde, on fabrique plus de 100 milliards de vêtements. Et ça contribue à détruire la planète.
À chaque seconde, je pense qu'on jette un camion ben de vêtements sur la planète. Enfin, dès qu'on commence à s'intéresser, c'est passionnant. Je conseille aux gens d'arrêter d'avoir peur et d'aller chercher des informations là-dessus. Parce que l'ampleur du gâchis, c'est tellement absurde que ça devient intéressant. Et les solutions, elles peuvent se présenter assez facilement d'elles-mêmes. C'est très facile de faire des trucs. Pas le grand truc qui sauvera tout le monde, mais un tas de petits trucs qui, accumulés, vont quand même grandement aider
petit à petit,
le changement. Ouais.
Oublier les lingettes, par exemple. On pourrait faire cette promesse-là aujourd'hui tous ensemble, d'arrêter d'utiliser les lingettes.
Ah bah personnellement, monsieur, j'ai renoncé aux lingettes, si j'en ai jamais utilisé.
Vous pouvez m'appeler Emmanuel. Hein. C'est bien. Ouais.
Mais il y a un tas de choses comme ça. Baladez-vous avec des sacs, arrêtez de prendre des sacs en plastique. Les pailles en plastique, c'est fini. Les gobelets en plastique, c'est fini. Je dirais bien les bouteilles en plastique.
Ouais. Quand on lit votre livre, Marie Desplechin, on ne peut s'empêcher de penser à une ado que vous citez plusieurs fois. C'est Greta Thunberg. On va écouter ce qu'elle a dit à l'ONU le 23 septembre.
You have stolen my dreams, my childhood.
Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Et encore, je fais partie des chanceux. Les gens souffrent, les gens meurent. Des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et tout ce dont vous pouvez parler, c'est de l'argent et du conte de fées d'une croissance économique éternelle. Comment osez-vous ?
Comment osez-vous ? C'est compliqué à juger ça, Marie Desplechin. C'est délicat le cas de cette jeune fille, parce qu'elle divise et elle passionne. Moi j'ai tendance à me faire l'avocat du diable dans ce cas-là. Je dirais, est-ce que on ne va pas trop loin ? Est-ce que ce n'est pas une caricature excessive qui finalement est contre-productive ?
Mais non, pas du tout, elle se fait entendre. C'est-à-dire ce qu'elle dit, les gens le disent depuis 15 ans, personne n'écoute.
Ouais.
Là elle arrive, elle est super courageuse, elle va le payer super cher ce qu'elle fait. Elle est l'objet d'une haine disproportionnée, elle concentre tout sur elle. C'est super courageux. Donc ce qu'elle dit, c'est pas difficile, encore une fois, c'est juste vrai. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle le fait avec la colère de l'adolescence. Et c'est ça qui est beau.
Eric Arsena, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, je pense exactement la même chose. Il se trouve que je suis très proche de ces gens, ces savants qui réfléchissent à l'évolution du climat. Donc, je connais bien Claude Lorius, qui a inventé de plonger très profond dans l'histoire du climat avec, vous savez, les petites bulles qui sont dans les glaces.
Ouais.
Et comme ça, on peut remonter jusqu'à 800 000 ans. Donc, ça fait 30 ans qu'il nous dit exactement, en plongeant dans le passé, on voit exactement ce que va donner l'avenir.
Ouais, on sait, ouais.
Donc, les scientifiques l'écoutent. Mais la plupart des politiques s'en moquent. Donc Greta arrive, elle relance. Et donc, bravo, évidemment bravo.
Et c'est ce que vous faites, Marie Desplechin. Vous martelez le message au final. Parce que vous enfoncez parfois des portes ouvertes, on va dire la vérité, Marie Desplechin, quand on lit votre livre. Surtout à l'adresse des enfants, vous y allez avec quelques ficelles, je dirais entre guillemets faciles. Ne pas se doucher tous les jours, par exemple. Vous jouez la corde sensible sur les animaux que l'on mange. Vous dites qu'il faudrait avoir plus de respect pour les bêtes dans notre assiette afin de les respecter. Et vous écrivez, si quelqu'un a déjà regardé une vache dans les yeux, il sait qu'elle n'a pas mérité de se faire humilier.
Non mais vous rigolez, mais cette partie-là,
non,
elle est
drôle.
Non, je rigole
pas, non.
Non, mais vous avez raison, parce que cette partie-là, elle est drôle. Le livre, il est divisé entre une adolescente qui parle en exagérant un certain nombre de comportements, comme on les voit tous les jours. En fait, je me suis rendu compte en me disant, en fait, on leur reproche tous ces trucs, mais c'est eux qui ont raison, en fait. Continue comme ça. Donc, il y a toute cette partie assez... Enfin, franchement, à mon avis, elle est drôle. Et après, à partir de ces items, par exemple, voilà, il y a une partie documentaire qui explique pourquoi, en fait, il faut effectivement arrêter de manger des animaux d'élevage.
Oui, c'est factuel, pourquoi, c'est
voilà,
informatif.
C'est extrêmement factuel, oui. Ouais. Et ce qui est un travail assez dur à faire.
Mais
aussi,
vous jouez un peu la corde sensible quand même.
Mais je fais une partie rigolote.
Ouais, ouais,
franchement, c'est drôle.
Ah bon.
C'est pas drôle, Emmanuel.
Ça dépend.
Non, sans blague.
Bon, on va voir les libraires. S'ils ont rigolé avec votre livre, il y en a deux qui veulent intervenir, la Belgique et le Canada. On commence avec le Canada. C'est à vous, Josiane Letourneau.
Oui, alors je crois que je vous inventerais, Marie Desplechin, si vous n'existiez pas. Il y a quelque chose d'unique dans votre plume. Un brillant aplomb, vous vous adressez aux jeunes avec bagou, pertinence et intelligence. Et ben cette fois-ci, votre humour s'étoffe de constats incontournables sur l'état des choses en environnement, sur notre responsabilité de citoyen, et vous ratissez large. C'est simple, c'est informatif et ça atteint la cible. Bref, votre livre, avec grand plaisir, je le ferai aussi lire aux parents, que dis-je, à tout le monde.
Bien, ah Nathalie Clairin, pour la Belgique, êtes-vous d'accord?
Oui, tout à fait, Emmanuel. Pour moi, un objectif est atteint. J'ai parlé de ce livre à ma fille de 13 ans et Camille a sauté dessus. Donc, je relève pour moi l'efficacité du message vert qui va droit aux valeurs qu'il veut défendre. Donc, en disant « des habitudes vous choquent », eh bien, ne vous laissez pas faire, créez vos solutions. En plus, c'est un manifeste qui est plein d'humour, c'est illustré avec énormément de fraîcheur. Bref, c'est Greta Thunberg en mode sourire confiant.
Voilà, on a ri avec votre livre. J'avais tort, en fait, voyez, Marie.
Non, mais je suis contente parce que souvent, c'est tellement angoissant hein, quand on commence à approcher la question. On a toujours, on passe par un très mauvais moment. Et en fait, ça va mieux quand on fait quelque chose et surtout quand on arrive à sourire en parlant.
Et quand on donne des chiffres aussi. Parce qu'il y a des chiffres éloquents, vous faites très justement.
Ouais.
Mais c'est important parce que le grand gâchis, on parlait des vêtements, mais il faut parler de la nourriture aussi. Vous évoquez ça, que un tiers de la nourriture produite dans le monde est détruite et pas seulement dans les pays riches. Dans les pays pauvres, parce qu'on ne sait pas s'organiser, on ne sait pas produire. Et dans les pays riches, avec la consommation, après la consommation, où on jette énormément de choses, le coût du gâchis est estimé à 1000 milliards. 1000 milliards.
Mais là-dessus, vous pouvez très très facilement mobiliser les jeunes ou les enfants. C'est des choses qu'ils comprennent vraiment très vite. Et c'est des possibilités d'action immédiates. C'est parce qu'il ne faut pas penser qu'on ne peut rien faire.
Et vous n'avez pas pensé.
Et
pas penser que c'est trop tard.
Bien sûr.
Parce qu'il y a
sauf qu'on nous le dit en ce moment.
De toute façon, c'est ça le risque aussi. De dire, de toute façon, c'est trop tard, la catastrophe, donc, jouissons avant l'apocalypse. Non, on peut jouir et continuer à être, échanger. Et les solutions, moi, ce que j'aime dans l'approche, c'est possible. À toutes les échelles. À toutes les échelles.
On peut aller encore plus loin, Marie Desplechin, avec l'habitat. Vous dites qu'on peut construire, s'imaginer sa cabane. Quand on était enfant, on était dans une cabane et on se suffisait de peu, finalement. Et vous dites que c'est peut-être une solution au logement aussi, ça. De ne pas prendre trop de place. D'imaginer habiter, acheter une maison, un petit appartement, quelque part, en fait, où on est bien, mais pas très grand. C'est pas la peine d'avoir un palais ou une grande maison?
Non, bien sûr, c'est pas la peine. Ces espèces d'images de villas qui sont présentées comme un bien enviable, qui font 48 pièces et qui appartiennent à une personne,
c'est rêve,
évidemment
ouais.
absurde. Mmh. Et après, dans l'enfance, il y a effectivement cette espèce d'idée d'habiter un endroit, mais de l'habiter vraiment en ouverture sur le monde qui vous entoure. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui se développe maintenant. Hein. Encore une fois, c'est pas des choses qui sont inventées, mais le retour à l'idée d'une maison, même qui soit autosuffisante. C'est-à-dire, c'est tout le principe des éco-quartiers aussi. Habiter ensemble, produire son énergie.
Et dans des endroits restreints. Vous habitez où, Marie Desplechin, si je peux me permettre? Dans une grande maison ou pas?
Alors, j'habite dans un appartement. Ouais. Qui fait 100 mètres carrés à Paris dans le 10e arrondissement.
C'est trop grand, Marie. Il faut déménager.
Oui, mais vous savez, j'invite énormément de gens, Emmanuel. Non, mais là, ça va pas. Souvent plein. Je vous assure. Je vous invite, si vous voulez.
Éric Arsenault est dans une petite maison à Paris. Éric.
Une petite maison. Oui. Je vous invite, Marie.
Bon, ah, allez, Éric, tout le monde s'invite.
On peut vivre ensemble, Marie.
Natacha Atlas.
Et on créera beaucoup d'énergie, Marie. Venez, Marie.
Arrêtez, Éric.
Venez, Marie. Cette émission qui doit favoriser les rencontres.
Mais oui, mais c'est ce qu'on
entre
fait.
Entre francophones.
Bien sûr, Éric.
Consentant.
Vous m'inquiétez, vous me regardez bizarrement.
Consentant. Mais je suis bizarre.
C'est vrai. Natacha Atlas, vous faites des gestes pour la planète, vous?
Oui, je parle un peu de tous ces problèmes-là. Dans mes chansons, ouais, c'est ouais. Strange Days, en fait, c'est un peu comme un...
Une alerte aussi.
Oui, voilà. Hein ouais.
Bon, on parlera de cet album tout à l'heure. Dans un instant, on continue le voyage et la découverte de notre planète avec le grand Éric Orsenna et Francis Latreille qui publient un livre sublime.
L'immense Francis Latreille et le petit reporter frileux Orsenna. Voilà.
Un livre sur les peuples de l'Arctique. Avant cela, voici le tout nouveau titre du groupe I Am et un kaléidoscope de leur racine hip-hop et de leur album culte L'école du micro d'argent. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Bon baiser de Mars. L'équipe de choc est de retour, crie-le. Tu connais la CLSA ou pas gacho, rarement KO. Message personnel à ceux qui visent le titre, le chemin, la ceinture. M6 Queen sur le ring. Trap 7, crash sec, mec. Live tout droit de Fort Greene à Brooklyn. On vient convertir les sceptiques, les éclairer, chauffer leur climat. Block party. Bloc parti quand les platines sont de sortie. Tu t'es prêt pour découper. Tu piges mes lyrics. A tous les jeunes MC, mettez le plaisir d'abord. Rap stick, 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 rap stick. Rap street, dynamite, pure guerre de tranchées. Rap street, dynamite, pure guerre de tranchées. Rap street, dynamite, pure guerre de tranchées. Rap street, je vandalise le rap simple et comme ABC. Tu entends le son de loin dans nos tirs quand les vitres sont abaissées. J'ai ce fond dans mon système, il faut des rimes qui se tiennent. Et toutes celles et ceux qui sont prises viennent. Écoute, la musique ne se planifie pas. Même ceux qui se voyaient beaux ne se qualifient pas. Alors tous les jours au laboratoire, je bosse mes gammes pour donner le maximum. Une fois devant l'oratoire, les caniches nains savent tous qu'on est des Rottweilers. 100% des mots sont à nous. C'est quoi ce rap avec des Ghostwriters? J'en suis seul, c'est l'effet domino. Là sur le sentier de la guerre comme Géronimo, Smike les humilie, tout ce popling à Nick et Mary Jean, comme Rakim les alignés, les plis en ordre alphabétique. Je capterai jamais pourquoi quand les frangins touchent le gras, ils se comportent comme les pires bourgeois. Sale manière, sale goût, sale fréquentation, leurs parents se sont saignés, dis-moi où est leur éducation. Ah messieurs, ça reste trop vague, alors c'est quoi que tu fais, rap ou violence, pas beau, escroc blague. À l'opposé d'un tataki, cruel extérieur dedans, complètement cuit, ainsi fait le petit con, fou la merde puis s'enfuit. Ça s'étonne un an après que la guerrière est sous les pissenlits. T'es encore sur le quai comme Benny Blanco. J'suis déjà loin devant mes ramènes en Montessando.
Nom de God Shuriken avec un cas comme Kunta Kinte. J'viens d'un endroit où les frères sont rarement acquittés. Il paraît que mon hip-hop don't stop nous a quittés. Viens pas t'y frotter quand même, Gary, ça va piquer. Compliqué, ça va devenir ma team bar appliquée. Fini les balbutiements, on parle d'art appliqué. On me demande d'aller doucement, j'ai pas le temps d'expliquer. Trop de gars m'attendent pour faire un nom de leur sobriété. Mon son un lance-flamme, qu'est-ce qu'ils foutent avec leur briquet? Ça se prend pour des kings, mais ça va très vite abdiquer. Des criquets, c'est ce qui restera quand je cesserai de kicker. Eux qui pensaient que pour rapper il suffisait de cliquer. Tu veux tester le crew, fais la queue, prends un ticket. Plein de rimes dans l'escarcelle, ce pari-là est risqué. Mais puisque tu sembles insister, je vais pas résister. À la fin de l'envoi, ton petit boule va se faire plastiquer. On l'appelle Mike, sa fonction c'est d'éradiquer. On m'appelle Chou, j'ai la même fonction que Mike. C'est au cœur de la bataille que je fais taire les critiques. Les haters et les sceptiques, les deux assis sur un piquet.
C'était le nouveau titre du groupe I Am avec Homo Tessando, extrait du nouvel album d'I Am qui sortira le 22 novembre.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et chaque semaine, une histoire, une anecdote racontée par l'un de nos invités avec Natacha Atlas qui est avec nous. Rebonjour Natacha. C'est un grand honneur de vous recevoir. Vous allez chanter un titre dans notre studio, extrait de votre nouvel album Jazz. Ce sera dans une dizaine de minutes. Mais avant, on vous a chargé de cette mission de nous raconter une histoire personnelle.
Ok, ben alors en 2016, j'étais invitée à chanter à le Fiesta 7,
oui,
qui est dans le
dans sud de la France.
Oui. Ouais. Et on était prêtes pour aller sur scène. Et puis, il y avait un très grand orage. Et puis, beaucoup de pluie. Et oui, comme ils ne sont pas couverts...
Oui, dans ça, c'est au bord de la mer.
Oui. Alors, c'était annulé.
Ah, ça a été annulé.
Oui. Alors, il nous a invités l'année après.
Ah oui.
Et le première partie, c'était Dafer Youssef.
Et il a plu?
Ben... Pour lui, il n'a pas plu. Et puis, il y avait une femme sur la radio de « Non, mais non, t'en fais pas, ça va pas, ça va pas se refaire. » Et puis, 5 minutes avant qu'on devrait aller sur scène, oui, encore un grand orage. « Mais non, non, ça va passer, c'est juste un orage. » Et puis, beaucoup de pluie, c'était annulé.
Vous n'avez jamais joué à 7 ans.
En fait, on attend toujours pour retourner.
Et mais... vous savez qu'on dit jamais 203, c'est risqué la troisième fois.
Mais il faut venir chez nous, on n'a pas assez d'eau, donc venez.
C'est où,
le secret des danses
en France,
vous avez le secret des danses de la pluie.
Peut-être.
Bon, merci, on vous retrouve tout à l'heure. Natacha Atlas dans la librairie francophone.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Éric Orsenna et Francis Latreille sont donc avec nous pour Les Derniers Peuples des Glaces, paru chez Gallimard. Dans la préface que vous signez, Éric Orsenna, vous racontez votre fascination et votre passion pour le Grand Nord, qui commence avec votre maman.
Et oui, parce qu'elle m'avait appris à un petit baiser, comme ça, avec les yeux et avec le nez, comme ça. Et c'était pas seulement avec la bouche. Donc je me suis dit que ça devait être incroyable d'aller dans le Grand Nord. Et donc toujours, je me suis dit, tiens, est-ce que on peut s'embrasser comme les Esquimaux ?
Oui, c'est ça.
Et alors, ça a été la première chose, parce que moi, je dois tout à ma maman qui me racontait des histoires. Et puis après, je dois tout à l'amitié, et donc l'amitié de Francis Latreille, parce que moi, j'adore raconter des histoires, donc j'écoute plutôt, et lui, il sait voir. Donc à nous deux, on est un peu complets.
Vous êtes reporter photographe, c'est en compagnie de Jean-Louis Etienne que vous explorez les terres du Grand Nord, l'Arctique qui compte 8 pays, dont la Russie, les USA, le Danemark, la Suède et le Canada. Avant de parler de ces peuples, parlons économie. Entrons dans le vif du sujet, il y a un enjeu économique sérieux en Arctique ?
Absolument, tout se bouscule un peu dans l'Arctique avec le changement climatique. Des voies nouvelles s'ouvrent parce que les glaces fondent à une allure grand V. Donc là, il y a des exploitations de gaz, de pétrole qui sont en activité maintenant dans des zones qui étaient des zones de nomadisation. Par exemple, en péninsule de Yamal, les nénettes ne peuvent plus transhumer pratiquement parce que c'est coupé tout leur territoire du lichen, là, est coupé par les oléoducs et ça pose de sérieux problèmes pour ces ethnies.
Certains s'en réjouissent alors, parce que ouvre des passages pays, ça permet de circuler entre les pays.
Vous gagnez entre l'Europe et l'Asie, vous gagnez plus de 5000 km, alors ça vaut des convoitises. Ouais. Moi j'ai passé le passage du Nord-Ouest sur un bateau qui s'appelle Tara, derrière nous il y avait le premier cargo, un vraquier qui emmenait du charbon depuis la côte ouest américaine vers l'Europe. Donc ils nous suivaient avec un brise-glace.
Et il y a les Inuits du Groenland aussi qui, selon vous, selon votre livre en fait, sont entre inquiétude et confiance face justement à ce changement climatique. Vous dites que les Groenlandais incitent même les peuples arctiques à réfléchir aux opportunités qu'apporterait le changement climatique.
Bien sûr, c'est assez ambigu parce que il y a cette transition entre la culture ancestrale et puis ce monde qui bouscule tout le monde, ce monde d'Internet. Donc ils sont, en 20 ans, ils sont passés d'une culture ancestrale à la culture d'Internet. Donc là, ça provoque grand écart. Et effectivement, certains Groenlandais se réjouissent des perspectives gazières ou pétrolières, qui est des mines aussi qu'ils veulent ouvrir au sud du Groenland.
De toute façon, l'homme va s'adapter. Le problème, ce sont les animaux et c'est la nature. Parce qu'eux ne vont pas s'adapter comme l'homme. Et c'est ça qui est en danger. Alors les rennes, il y en a partout. Hein. Vous parlez des rennes à chaque fois. Eux, ils sont en danger également,
Rennes. Ils sont menacés parce qu'avec le réchauffement du permafrost, c'est un grave problème, le permafrost. Très, très grave problème. problème. On occulte un peu ce dossier, mais c'est un très grave problème.
Et c'est la couche de glace, en fait, qui est dans la terre, voilà. Très profondément ancrée, voilà, qui a permis de construire des habitations, notamment, et qui renferme plein de choses et qui est en train de fondre.
Et ce permafrost a commencé sa fonte, et ça dégage dans l'atmosphère du méthane, qui est quand même beaucoup plus corrosif, je crois 26 fois plus corrosif que le CO2. Et c'est des milliards de tonnes de méthane qui sont enfouis dans ce permafrost. Le permafrost, c'est 25% des terres émergées de l'hémisphère nord. Mais c'est énorme, le permafrost. On se rend pas compte. On est sous des latitudes où on se rend pas compte de ce qui se passe. Le Grand Nord, vous parlez du Grand Nord, par exemple. Le Grand Nord, vous allez à Marrakech, c'est pas loin, pour vous. Sous nos latitudes. Eh ben, le cerf polaire, il est plus près de Paris que de Marrakech.
Eh oui.
On est plus près du cerf polaire à Paris que de Marrakech.
Alors, ces animaux, c'est un vrai souci parce que ils en vivent. Tous ces peuples vivent grâce à ces animaux. Ils les domestiquent, ils les chassent, ils les préservent, ils les protègent. Il y a comme ça cette relation à l'animal et à la nature très, très proche, en fait. Il y a la Yakoutie, le pays des mammouths, l'endroit le plus froid de l'hémisphère nord, moins 60 degrés, Eric Orsena. Il y aurait 5000 tonnes d'ivoire pris sous les glaces avec des défenses de mammouths.
Bien sûr.
Et là encore, ça attire les convoitises, parce qu'on se dit que l'ivoire, cet ivoire-là, il est légal, contrairement aux défenses d'éléphants aujourd'hui.
Oui, donc l'ivoire de mammouth n'est pas interdit par la convention de CITES. Donc, les défenses d'ivoire ressortent du permafrost, les carcasses aussi. Et donc, cet ivoire de mammouth, la Yakoutie en exploite actuellement environ 80 tonnes par an. Et cet ivoire de mammouth est légal. Mais si elle sort dans le permafrost, au bout de 2 ans, elle explose, elle implose. Parce qu'avec l'humidité et le gel, font que ces défenses vont exploser de toute façon. Donc elles ont une durée de vie très courte quand elles sortent. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des trafics.
Enfin, c'est terrible parce que
c'est du business entre Chinois. Parce que les Chinois, ils ont une frontière commune pratiquement, ils sont à côté. Donc ils vont chercher l'ivoire...
Bon, allez, il y a 3 libraires qui ont lu votre beau livre, Eric Orsena et Francis Latraille. La France, le Canada et la Suisse. On commence par qui, Eric?
La Suisse.
Et après mûre réflexion, la Suisse. Allons-y, Dominique Bressoux.
Oui, alors pour tous ceux qui penseraient connaître par des reportages les peuples du Grand Nord, ce livre est absolument indispensable. Moi, j'y ai découvert une bien plus grande diversité qu'attendue, avec l'impression horrible que c'est le dernier moment pour saisir toutes leurs traditions encore vivantes. Moi, c'est un livre absolument magnifique et qui nous montre tout ce que nous perdons ou que nous allons perdre.
Allez, la France avec Mathieu Colombe.
Bien, je suis assez d'accord, hein. C'est vraiment un ouvrage précieux. Effectivement, la somme photographique est unique et permet une plongée dans un mode de vie aux antipodes de notre confort habituel. Mais hélas, il y a fort à parier que la plupart de ces images finissent dans un livre d'histoire, puisque le dit mode de vie ainsi que son environnement sont promis à une mort certaine.
Oui, vous êtes d'accord, Francis Latraille.
C'est une chronique d'une disparition annoncée. Malheureusement, dans 20 ans, on ne verra plus ces ethnies dans le même contexte que j'ai photographié. C'est évident.
Le Canada avec vous, Josiane Letourneau.
Ben évidemment, les magnifiques photos de votre livre m'ont fait voyager jusqu'à parfois carrément me couper le souffle. Mais j'avoue avoir ressenti la tristesse, de la rage même, en constatant que non seulement le réchauffement climatique, mais aussi l'avidité, les exploitations minières menacent la singulière beauté de ces espaces. En fait, les mots me manquent pour exprimer l'admiration que j'ai pour ces peuples qui résistent à l'appétit féroce de ces industries.
Ben, la vie de nos libraires, vous avez l'air presque ému par leurs commentaires.
Bien sûr, c'est dramatique, ces ethnies qui continuent à se battre malgré dans l'adversité.
Comprenez,
c'est ce que dit Marie, si notre planète était pas belle, si les gens qui sont partout sur cette planète n'étaient pas intéressants, s'ils n'avaient pas inventé sans arrêt des sortes de pactes avec la nature, on s'en foutrait de cette planète. Mais elle est magnifique, elle est diverse, elle est d'une richesse insensée. Et donc, rien n'est plus loin que tous ces gens fous qui disent « Bon, on a salopé notre planète et maintenant on va aller s'installer sur un rocher de merde à plusieurs milliers d'années-lumière. Ouais. » C'est débile.
Bon, il y a des images sublimes dans ce livre avec des campements, des petits villages au milieu de nulle part, comme ça, dans le froid et la glace. On voit la vie de ces peuples, leurs traditions aussi que vous racontez. Il y en a une qui est très touchante et qui montre leur respect pour la nature et les animaux, même s'ils les chassent. Quand un chasseur inuit tue un phoque, il doit caresser l'animal mort et lui déposer un petit morceau de glace dans la gueule. Francis Latraille.
Oui, c'est la tradition. Là, je suis allé dans une communauté inuite au mois de mars dernier. C'est leur culture, c'est pour les accompagner dans l'au-delà, donc il faut pas qu'ils...
Pour pas qu'ils aient soif en montant au paradis.
Déshydratent. Oui. Donc ils vivent de la chasse au narval, ou à la baleine, ou à l'ours polaire. Effectivement, ça peut paraître un peu dur pour nous, occidentaux, mais c'est leur survie.
Au nord de la Russie, il y a le peuple Tchouktch, à proximité du détroit de Bering, chasseur de morses et de baleines. Francis Latreille, vous y avez côtoyé des artistes. Et on a retrouvé justement des chants Tchouktch, et avec un titre qui s'appelle justement « Le détroit de Bering ». Écoutez. Ça vous rappelle des souvenirs, Francis?
Bien sûr. En Tchouktchka, justement, il y a beaucoup de chants de gorge, ce qu'on appelle. Ces chanteuses imitent le son de la mouette, enfin de tous les animaux qui les entourent dans leur univers.
Leur quotidien. Et le changement climatique peut aussi, à moyen terme, faire disparaître ces cultures. Donc, sédentariser les peuples, rapatrier dans des endroits moins reculés et, d'une certaine façon, les intégrer, comme on dit, dans nos sociétés industrielles.
Oui, malheureusement, c'est le sort qui leur est réservé. Moi, par exemple, les Dolgan en péninsule de Taïmyr, qui est la péninsule la plus nord de la Sibérie, ces Dolgan, ils étaient 250 quand je suis passé les voir la première fois en 2000. Ils ne sont plus que quelques dizaines maintenant. Ils sont plus que 60 parce que les femmes et les enfants reviennent, ils ont des subventions, ils reviennent aller dans les villages.
Eric Orsena, il y a l'Antarctique qui, lui, est le pôle sud, qui est protégé jusqu'en 2049 de toute tentative d'exploitation industrielle. A contrario, ce n'est pas le cas de l'Arctique. Pourquoi ?
Mais d'abord parce que là, il y a eu des actions de politique, et notamment de Michel Rocard.
Ancien Premier ministre français,
qui a convaincu le président Bush père de signer cet accord. Et là, c'est l'exemple même d'une action.
Eh oui.
Parce que s'il n'avait pas été là, s'il ne s'était pas mis d'accord avec son copain, le Premier ministre australien, eh bien, il y aurait des mines qui seraient exploitées dans tout ce continent énorme. Donc, l'action politique, c'est pour ça que je disais,
la décision
toutes les
politique.
Échelles, nous, mais aussi forcer les politiques à agir.
Bon, merci beaucoup Eric Orsena, merci Francis Latreille. Les Derniers Peuples des Glaces, très beau livre, est publié chez Gallimard. À noter aussi Eric, votre portrait de Beaumarchais aux éditions Stock.
Qui n'a rien à voir.
Qui n'a absolument rien à voir.
Sauf la vie.
Mais il vient de sortir.
Sauf la vie, la passion pour la vie.
Bon.
Et il s'agit de ça.
Vous restez avec nous parce que juste face à nous, il y a tous les musiciens de Natacha Atlas qui sont installés.
Oui.
On va parler de son nouvel album et des fantômes littéraires du Suisse Jean-Michel Olivier aussi. Voici donc un cadeau musical. La grande Natacha Atlas sort un nouvel album qui croise les genres et les cultures. Elle est installée pour un titre acoustique inédit à la radio. Maktoub, c'est le titre. Tout le monde est en place. Elle est drapée de rose aujourd'hui, Natacha Atlas, avec son violoniste juste à côté d'elle, Samy Bichaï. Voici Natacha Atlas dans les studios de la librairie francophone.
مش فاهمين حاجة أي حاجة ولا حاجة مش لاقين حاجة من بالأفندي ولا حاجة مش شايفين حاجة في الليلة دي ورينا حاجة مش عاوزين حاجة في الدنيا دي يا ناس مكتوب ولا مكتوب ممكن نغير هل نتغير ممكن نغير هل نتغير ممكن نتغير هل نتغير لازم نتغير مكتوب ولا مكتوب
Natacha Atlas avec Maktoub et Sami Bichai et Andy Amil, ces musiciens avec elle. Merci beaucoup Natacha. Revenez, venez nous rejoindre sur ce plateau le temps de cette petite virgule, comme on dit.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
Ici Radio-Canada première.
RTBF la première.
France Inter.
Sous les yeux éblouis d'Eric Orsenna, Natacha Atlas qui remet son casque. Ça vous a plu, Eric?
Ah, moi j'adore ça. On a l'impression que c'est le génie qui sort de la lampe d'Aladin pour nous entraîner dans la ronde.
C'est magnifique, bravo Natacha Atlas. Merci. Vous êtes née d'un père égyptien et d'une mère anglaise, installée à Bruxelles lors de votre enfance, puis en Grande-Bretagne, en Grèce, en Turquie. Vous avez beaucoup voyagé et dans les années 80, vous rencontrez les artistes de la New Wave à Londres. C'est là que votre métissage artistique a commencé en quelque sorte.
C'est ça, oui. Ben, en fait, à Londres, comme il y a beaucoup de musiciens de partout, moi j'avais travaillé avec des musiciens de l'Inde et j'ai eu beaucoup d'influence de l'Inde aussi dans ma musique, j'adore ça. Mais il y avait des musiciens de l'Afrique et de hip-hop.
Ouais.
Et en fait, Trans Global Underground, la première groupe avec qui j'ai travaillé, c'était vraiment un mélange de tout ça, mais dans une sorte de. Un peu punky aussi, un peu. Rebelle.
Un peu rebelle. Ouais. En 1999, les Français, le monde francophone adore votre titre « Mon ami la rose ». Mais aussi au Caire et à Beyrouth, vous avez de nombreux fans. Partout dans les pays occidentaux, mais aussi les pays orientaux, vous avez fédéré. C'est ça votre vraie réussite, avoir touché tous ces peuples.
Ouais.
C'est votre fierté, ça.
Non, j'espère, oui.
Mais ce qui est formidable, c'est que c'est pas la world music insipide. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à chaque fois, vous redonnez de l'identité à chacune.
C'est ça.
Au lieu de les mélanger dans une sorte de méli-mélo, de mash-mélo insupportable. Chaque identité revient. C'est ça qui est magique avec vous.
Et compris.
Merci, ça c'est un grand compliment. Merci.
Y compris quand elle retourne aux sources, aux racines, Natacha Atlas. Vous aimez les femmes fortes comme Fairuz, à qui vous avez rendu un magnifique hommage sur l'un de vos albums. Et il y a un titre de votre répertoire que vous avez emprunté à Fairuz. C'est un chef-d'œuvre, Natacha Atlas. C'est la plus belle adaptation d'une chanson que je connaisse, tout répertoire confondu. C'est Yalor Hoboki. Cette chanson interprétée par la Libanaise Fairuz, qui est aussi un monument de la musique orientale, Natacha Atlas.
Oui, c'était une grande influence pour moi parce que aussi, les compositeurs avec qui elle a travaillé, les Rahbani Brothers, ils faisaient leur sorte de pont entre l'Occident et l'Orient.
Ouais, comme vous.
Ouais. Dans leurs compositions. Ouais. C'était vraiment quelque chose de fantastique et ça m'a influencé aussi.
Ouais. Vous transmettez de l'émotion, Natacha. Vous êtes toujours sur le fil de l'émotion. Vous pensez que la douceur, ça peut réunir les peuples aussi? C'est ça votre mission?
Ben, j'espère. En fait, pour moi, l'art, la musique et toutes les autres formes d'art, j'espère que ça peut aider, en fait.
Natacha Atlas, absolument sublime. Eric Orsena est au bord des larmes. Moi quasiment aussi. C'est magnifique cette chanson. Magnifique. La façon dont elle l'interprète, c'est magnifique. Bon, il y a ce nouvel album, Natacha, Strange Days, qui est très anglophone cette fois. Vous orientalisez le jazz avec même une reprise de James Brown, It's a Man's World. Et vous avez, là, une fois encore, puisé dans un répertoire inattendu.
Oui, ben en fait... Je trouve que le jazz a un truc en commun avec la musique arabe, c'est l'improvisation. Mmh. Et alors moi, je voulais étudier un peu le jazz et vraiment faire une union entre la musique arabe et le jazz.
Et vous avez improvisé sur cette chanson, par exemple?
En live, je le fais beaucoup. Oui.
Ouais.
Over the room, man made the train to carry the heavy load.
Natacha Atlas avec cet album Strange Days qui sort en CD sur les plateformes d'écoute et de téléchargement en ligne. Merci beaucoup Natacha Atlas, c'est un grand honneur de vous avoir sur ce plateau. À très bientôt, vous allez partir en tournée évidemment,
oui,
dans le monde entier.
Oui.
Voilà. Eric Orsena, vous savez, je sais déjà arrêter de la regarder comme ça. Il est hypnotisé, Eric. Voilà, on va s'arrêter là, Eric. On va passer à la chronique des libraires. Vous allez voir, ça va vous secouer avec des coups de gueule. Allons-y.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Mais un petit coup de cœur pour commencer, Mathieu Colombe en France.
Oui, et c'est un coup de cœur qui nous tenait à cœur, à ma libraire jeunesse et à moi, de vous transmettre en fait. C'est un album qui s'appelle Grandir. Alors déjà on aime bien ça parce que ça parle de quelque chose qui n'est pas vraiment à la mode. En fait on explique aux enfants que très explicitement que en fait dans la vie ben on reste pas jeune toute sa vie et qu'on vieillit, voilà, tout bêtement. Et c'est servi par un dessin absolument sublime, onirique, riche en détails et merveilleux.
Et ce qui est magnifique, c'est que c'est aux éditions des grandes personnes. Grandir.
Exactement.
Magnifique, joli choix. Merci Mathieu. Josiane Letourneau, un coup de gueule pour vous au Canada.
Et un coup de gueule qui s'adresse aux parents. Je m'adresse directement à eux aujourd'hui. Alors, je sais que vous n'êtes remplis que de bonnes intentions. Mais dans votre volonté de faire lire vos enfants, vous vous tirez parfois dans le pied. Alors, ils ne lisent que de la BD et vous voudriez qu'ils aient lu l'intégrale de Victor Hugo avant leurs 12 ans, respirez. Dans un monde aux écrans démultipliés, ils lisent. C'est positif. Je suis libraire. Et avant de dévorer des classiques, j'étais une fan finie des livres dont vous êtes le héros et de Garfield. La littérature n'a pas une seule forme valable. C'est le buffet à volonté le plus varié qui puisse exister. Dites-vous qu'ils finiront bien par essayer autre chose et lors de votre prochaine visite dans une librairie, offrez-leur le livre de leur choix.
Et oui, et sur un buffet, il faut goûter de tout. Marie Desplechin approuve.
Ah, je suis mille fois d'accord.
Bravo. Merci Josiane.
J'en ai soupé de vivre dans un monde fini, comme un rat prisonnier dans un carton. J'aimerais ouvrir les portes, mais les portes vers en haut. Voilà.
On va juste pour...
Voilà ma conclusion. Excusez-moi, je dois partir.
Attendez, on n'a pas terminé.
Du retard. J'ai promis d'être à un débat où je dois
Jacques
parler
Chessé,
de cela.
Il nous reste 10 minutes.
Je conclus ainsi. Je suis confus. Ma foi, j'y peux rien.
Et bonjour Jean-Michel Olivier.
Bonjour Emmanuel.
Sur cette voix de Jacques Chessé, monument de la littérature suisse disparu en 2009, c'était dans la librairie francophone ce que vous avez entendu, au Salon du Livre de Genève, où il avait été, disons-le, infect avec nous et avec moi. Il avait quitté même le plateau au bout de 5 minutes. C'est le seul qui nous a fait ça dans l'histoire de cette émission. Et vous racontez les frasques de Jacques Chessé dans votre livre, Jean-Michel, notamment.
Oui, c'était humainement quelqu'un de très difficile, d'imprévisible, de violent. Et puis, il fallait quand même un peu l'approcher comme un animal qu'on essaye d'apprivoiser. C'était vraiment très difficile.
Il y a un passage, vous évoquez cet appel de Chessé et votre fille qui tourne autour de vous un peu turbulente et elle débranche le téléphone une première fois.
Oui, c'est-à-dire que ma fille, que je salue ici, que je vais retrouver tout à l'heure parce qu'elle est à Paris, eh bien, elle m'a fait fâcher quand même assez sérieusement avec le monstre de Ropra, parce qu'elle était d'une excitation extraordinaire ce jour-là. J'étais en train d'interviewer Chessé par téléphone, c'était pour son 60e anniversaire, et elle a rien trouvé de mieux que de débrancher l'appareil. Ouais. Elle l'a fait quand même plusieurs fois.
Deux fois, ouais.
Voilà.
Dans Éloge des fantômes, hein, c'est le titre de votre livre, Jean-Michel. Michel Olivier, vous dressez le portrait comme ça de ces personnalités artistiques et littéraires qui ont marqué votre vie. Vous avez un grand souvenir avec Louis Aragon. Vous allez le côtoyer de nombreuses fois lors de rendez-vous au restaurant.
Oui, dans ce livre, j'ai voulu rendre hommage au fond à ceux qui m'ont encouragé, ceux qui m'ont un peu poussé à écrire, parce que évidemment, au début, quand on commence, on n'a que des doutes. C'était vraiment des circonstances qui marquent quand même le jeune homme que j'étais.
Oui, vous êtes impressionné parce que vous lisez quand vous êtes à Londres.
Oui,
vous racontez que dans le métro, vous lisez Aragon et un jour, il débarque comme ça au restaurant avec un ami à vous.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Tous les personnages du livre, j'ai commencé à les lire avant de les connaître personnellement, pratiquement. Et c'est très impressionnant.
Mais vous vous arrêtez là souvent, Jean-Michel Olivier, avec Simone Gallimard aussi, qui vous propose une partie de tennis. Vous ne la ferez jamais, cette partie de tennis. Avec Aragon, qui vous propose d'aller dans sa résidence du Cap Brun à Toulon. Vous refusez également. Et vous regrettez tout ça, finalement, de ne pas être allé à leur rencontre un peu plus que ça.
Dans la maison de la Côte d'Azur, très certainement. Mais bon, là aussi, le destin a voulu que j'y aille pas, et puis finalement, bon, c'était peut-être très bien comme ça, mais j'ai plus revu Aragon après, hein. Mais c'est vrai que je reste toujours, on reste souvent sur un regret, d'une certaine manière, avec Aragon, avec Simone Gallimard, avec d'autres personnes aussi, comme mon père, bon, des questions qu'on leur a pas posées, des choses qu'on leur a pas dites, évidemment, de leur vivant.
C'est très touchant, en tout cas, très souvent, Jean-Michel Olivier, et puis il y a des amitiés éclectiques, dirons-nous, c'est le que l'on puisse dire, car de Louis Aragon, vous vous liez avec un certain Vladimir Dimitrievitch, fondateur de L'Âge d'Homme, votre éditeur, un homme plus que sulfureux, disons-le, pro-serbe lors de la guerre en ex-Yougoslavie, soutien conditionnel de Milosevic, raciste envers les écrivains sud-américains et africains. Il ne se plaisait pas dans les autres cultures que la sienne, il était chrétien orthodoxe, il le disait haut et fort, et une fois de plus, vous faites son éloge.
Oui, il a été poussé dans ses retranchements à propos de la guerre en ex-Yougoslavie. Il disait pas qu'il était pro-serbe, mais qu'il était serbe, simplement.
Il était pro-serbe, il l'a affiché, il a
mais,
écrit.
Là, ce que je veux dire, c'est que son cœur était serbe. C'est quelque chose qui dépassait, au fond, l'entendement. Alors, moi, je l'ai évidemment connu avant, je l'ai connu dans les années 80, puisque j'ai publié mon premier livre en 81 avec lui. Après, il y a eu la guerre, et ça a cassé quelque chose de profond en lui, ça l'a mis en état de siège.
Mais pourquoi une nouvelle fois, Jean-Michel Olivier, vous insistez sur ce personnage? Vous aviez déjà écrit un roman,
oui.
On en avait parlé ici, d'ailleurs ça avait été un peu houleux, j'espère
absolument
que vous ne ferez pas comme Jacques Chessé aujourd'hui,
absolument,
mais L'Ami barbare, vous vous souvenez? Et on n'avait pas compris vraiment pourquoi vous faisiez l'éloge de cet homme-là, qui est un homme
mais parce
un
que,
petit peu particulier,
bon,
un peu extrémiste quand même.
J'aime bien défendre des causes un peu difficiles à défendre.
Ouais.
En plus,
gagné,
j'aime bien, oui, c'est. Et puis j'aime bien aussi, bon, en l'occurrence, on a dit tellement de mal de lui, en particulier à cause de son engagement, évidemment.
Mais souvent à juste titre, Jean-Michel Olivier, son racisme,
mais
c'est pas accepté. acceptable, par exemple.
À partir des années 80, à partir de cette guerre, à partir des années 90.
Oui, vous justifiez, là.
Oui, son aventure, par exemple, éditoriale, commence en 66.
Oui.
Et d'ailleurs, l'âge d'homme a été fondé par Dimitri sur une idée de
Donc ça efface tout ça? Ça efface tout ça?
Non, ça n'efface pas, mais simplement, il faut, mettons, mettre les choses un peu en équilibre aussi.
Bon, c'est votre liberté, en tout cas. Trois libraires ont lu votre livre. On commence par la Belgique avec Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel, j'ai bien aimé, donc, moi, pour ma part, cette idée maîtresse dans le récit de la littérature qui est en lien constant avec les arts plastiques ou les arts de la scène. Et puis, pour terminer, je dirais que sur le fond, il y a effectivement des rencontres tellement fortes qu'on ne peut que les prolonger par l'écriture. Et c'est fait ici avec une verve remarquable.
Bien. Dominique Bressot pour la Suisse, qu'en pensez-vous ?
Alors moi, au départ, l'idée de lire un éloge sur des disparus, ça ne me souriait pas vraiment. Mais en fait, c'est un vrai cadeau que ces pages. Dans ce monde disparu où l'écrit comptait beaucoup plus que l'image, votre galerie de doux fantômes et ce que vous en dites les rend beaucoup plus vivants et proches que ne le ferait le meilleur des albums photos.
Bon, vous avez séduit deux libraires.
Ça, c'est mon avis.
Bon, on va voir du côté de Mathieu Colombe et de la France. Comment ça s'est passé en France, Mathieu ?
Eh bien, moi, j'ai trouvé que l'idée d'une séance de table tournante avec Jean-Michel Olivier, c'était quand même pas mal. Et de nombreuses choses sont effectivement au rendez-vous. Il y a du style, de l'érudition, de l'émotion. Et on aimera voir ces morts, augustes ou pas, d'ailleurs, reprendre un peu de souffle, de vie dans ces évocations qui, sans jamais tomber dans l'outrecuidance mélancolique, mettent un peu de brillant aux yeux.
Bon, vous arrivez à nous passionner, effectivement, avec des portraits, et des portraits très personnels, Jean-Michel Olivier. On y croise aussi Bernard de Fallois, l'éditeur qui vous a publié également, avec ce fameux Dimitri d'ailleurs, pour L'Amour Nègre, pour lequel vous avez eu le prix Interallié.
Oui, Bernard de Fallois est un personnage très, très secret, très étrange, etc. Je crois qu'on a écrit très peu sur lui. Il y a un roman quand même qui a été écrit sur lui, Jean-Marc Roberts.
Une étrange affaire.
Voilà, c'est ça.
Et c'était une histoire, parce qu'il est arrivé très très jeune comme stagiaire dans sa maison d'édition, et il avait une passion pour cet homme, et puis cet homme un jour disparaît. Ouais. Et c'est des histoires d'amitié amoureuse pour un patron comme ça. J'adore ces questions des personnages, et vous savez, le tombeau des morts est dans le cœur des vivants.
On va terminer avec Jacques Derrida, avec ce passionné de whisky. Vous racontez une anecdote comme ça, vous êtes à un séminaire, et il vous couche finalement, Derrida, parce que lui, il va même danser sur la musique de Bonnie Tyler, dans un caveau il boit du whisky, il vide des bouteilles.
Infatigable, increvable, absolument. Oui, parce qu'il venait à Genève donner un séminaire tous les 15 jours, et comme c'était tous les 15 jours, c'était 4 heures le matin, 4 heures le soir. On sortait, on était laminé, lessivé, et on allait boire des verres, évidemment, en se disant, bon, bah maintenant, voilà, faisons autre chose. Et lui, généralement, il débarquait le soir, et puis whisky, la danse, la musique, etc. jusqu'à plus d'heures du matin, quoi. C'était vraiment extraordinaire.
Merci beaucoup Jean-Michel Olivier. Éloge des fantômes est paru aux éditions L'Âge d'Homme. Merci d'être venu dans la librairie francophone. À bientôt.
Merci Emmanuel.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à un jeune artiste francophone. Voici l'artiste suisse Muddy Monk.
Si tu danses encore.
le Suisse Muddy Monk avec Divine, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. Merci Marie Desplechin, à très bientôt. Jean-Michel Merci. Olivier, Eric Orsena, Francis Latreille, Natacha Atlas. Merci pour votre venue dans cette émission. À la réalisation, Frédéric Milano avec Guillaume Roux et Charles Pélabon. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Techer en Suisse, René Mikils avec Valérie Le Put en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Bonne semaine, bon week-end.